Alors, ce qu'on va entendre, un petit peu de contexte pour comprendre quand même, ça se passe au conseil communal d'Anderlecht, avec un échevin et maire qui insulte une conseillère du PTB. C'est chaud, vous allez l'entendre. Hein. Le conseil communal d'Anderlecht s'est terminé dans les cris et sans conclusion, ponctué par les coups de marteau du président du conseil, Gaëtan Van Guatzenhoven, et les insultes d'Achille Junior Van Dijk. Écoutez ça, c'est je sais pas, je sais pas dire c'est quoi, c'est dingue.
Madame Polanco.
Pardon, merci. Oui, je voulais intervenir sur ce point parce que cette semaine, j'ai été assez choquée par les propos de la vice-présidente du CPS, Marcella Gori, qui, je lisais, ses propos, c'est « on arrive en Belgique ».
Ça n'a rien à voir avec le point, madame, je
suis
désolée.
Si, j'en viens.
Non, ben, c'est monsieur, qui préside et je pense qu'il y a eu déjà assez d'invectives ce soir. Et donc maintenant, ça va suffire, on s'en tient au point.
C'est une page.
Voilà. On ne va pas discuter de tout ici, hein. Je veux bien qu'on parle de Schaarbeek, de Molenbeek, pourquoi pas New York. Vous avez un avis sur le nouveau maire de New York? Je serais intéressé.
Je ne suis pas en train de vous parler de la vice-présidente du CPS d'une autre commune. Je vous parle de la vice-présidente du CPS, Anderlecht. Ok, je peux continuer. Donc je viens de dire, de toute façon, voilà ce que Mme Gori a dit.
Non, c'est terminé. Vous n'avez plus la parole.
Mais par contre, on voit. J'ai des questions sur le CPS. J'ai des questions sur le CPS. Quand on était au point budget, je vous ai demandé.
Oui, mais parce non. que. Oui, sur le CPS, okay, pas des faits personnels.
Mais
pas,
j'en ai qui sont très concrètes. Mais si je pouvais terminer, au bout, vous pouvez me dire si c'était OK ou pas. OK. Donc, la question, c'est qu'en fait, on voit que le CPS souffre, qu'il va y avoir d'énormes économies dans le CPS et que c'est un bateau qui est au bord du naufrage. Ici, la vice-présidente se permet de considérer le CPS comme un win for life.
Monsieur
Van Guatzenhoven, c'est des propos scandaleux. C'est des propos qui sont proches de l'extrême droite.
C'est
des propos qui concernent le CPS.
Et le point est clôturé.
Ok, alors j'ai une question pour monsieur Wilmar.
Non, c'est terminé. Le point 18 est passé, on est au point 19.
Non,
c'est comme ça. C'est comme ça.
Non.
Point 19 maintenant.
Non, je suis désolée, je vais
non,
terminer.
Non, il n'y a pas de désolé, c'est moi qui préside. Sinon vous, c'est bon comme ça maintenant.
J'ai une question.
Je commence à en avoir marre.
Je vous ai posé la question quand on était au point budget. Vous m'avez dit que je pouvais intervenir maintenant.
Et répéter que les questions doivent porter sur le point,
mais
les trucs et les machins.
J'ai des questions parce que ça concerne le CPS, donc j'interpelle le collège.
De toute façon, j'ai décidé qu'on est au point 19. Voilà.
Pardon ?
Et non, madame, on ne joue pas.
Non, mais sérieusement, vous m'interdisez de poser mes questions concernant le budget du CPS.
On n'en sortira pas.
Vous m'interdisez. Je vous ai demandé, quand on a fait le point budget, c'est pour.
Voilà. Maintenant, le point 19, s'il vous plaît. Non. Non. Je refuse que ce conseil communal se transforme en ring de catch. Et donc maintenant, on va continuer. Point 19. C'est un rappel à l'ordre maintenant. Voilà. Point. Voilà. 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 Maintenant, je demande le silence.
Quand on arrive en Belgique, on gagne le win for life. Ce sont les propos de Mme Gori, qui est vice-présidente du CPS. Mais non. Quand on arrive en Belgique, on gagne le win for life. C'est les propos de Mme Gori, qui est vice-présidente. Ok, j'ai deux questions. Oui, on peut la suspendre parce que je ne vais pas lâcher. Mais c'est votre faute, je vous ai posé la question quand on parlait du budget.
Est-ce qu'il y a quelque chose au point 19? Non.
Vous m'avez dit d'attendre.
Point 20, adhésion au contrat entre les services fédéraux des pensions et ETIAS.
Alors, deuxième partie avec Eric. De mes sœurs, pardon, maître. Oui, deuxième partie, parce que c'est la première, voilà, on est là, on est emballé, on a envie de continuer. Alors, on discutait un peu hors micro, et toi, tu avais envie d'un peu reparler de l'Italie.
Micro je te laisse. Ouvert.
Je crois que ce qui s'est passé la semaine passée est assez extraordinaire. On a tous vu l'interception de la flottille qui allait apporter de l'aide humanitaire à Gaza, l'interception par l'armée israélienne. Et c'est vrai que depuis plusieurs semaines, dans de nombreux pays, les militants de la solidarité avec la Palestine avaient dit le jour où il y a une interception, on va descendre dans la rue.
Une interception de la flottille, quoi.
Interception de la flottille. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Je crois que la nuit de mercredi à jeudi, la flottille est interceptée. 48 bateaux ont été arrêtés. Plus de 500 personnes ont été menottées par l'armée israélienne, ont été amenées en prison, sont traitées comme des terroristes. Et en Italie, mais aussi dans d'autres pays, plusieurs organisations sociales et la solidarité avaient dit « si interception, on descend dans la rue ». Mais en Italie, ça allait plus loin. En Italie, c'était une grève générale qui était annoncée. On peut se demander, au fait, est-ce que la population italienne, est-ce que les travailleurs italiens vont répondre à cet appel-là. Mais ils ont répondu massivement. Tout d'abord, cet appel, il est fait officiellement par les grands syndicats, la CGL, aussi par un plus petit syndicat, USB. Mais s'ils le font, si surtout la CGL le fait, on peut comparer à la FGTB ici en Belgique, c'est surtout parce qu'il y a une énorme pression de la base, les militants syndicaux, les travailleurs qui se disent, au fait, on ne peut pas rester les bras croisés face à ce qui se passe là-bas à Gaza. Et donc, oui, donc ce qu'on a vu, c'est que la CGL et l'USB, les deux syndicats, ont appelé à une grève générale le vendredi 3 octobre. Et cette grève générale, elle est accompagnée de manifestations et de blocages, des ports, blocage des nœuds névralgiques dans la logistique et le transport, ferroviaire, routier, et aussi par des occupations, surtout dans les lycées et les universités. Et donc, vendredi, cette grève générale a lieu, et probablement c'est une des grèves générales les plus amples dans l'histoire de l'Italie. Et le caractère de cette grève générale, elle est assez... sans précédent, dans le sens que c'est une grève générale politique, de solidarité internationale, contre la guerre, contre Israël et avec le peuple palestinien. Et donc,
contre l'austérité aussi sûrement, contre la politique menée là-bas en Italie, j'imagine.
Tout à fait, je veux dire, on assiste à un télescopage.
La même chose, quoi.
Un télescopage, au fait, des griefs sociaux et politiques de la population, mais la question palestinienne, tout comme dans d'autres pays, est un véritable catalyseur de toutes les colères, où elle rassemble toutes les colères. Et donc, oui, la grève était massive. Ça veut dire que, selon les chiffres, entre 60 et 80% des travailleurs ont fait grève. Il y a eu 2 millions de personnes dans plus de 160 manifestations différentes partout en Italie. Il y a des affrontements.
Dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, peut-être.
Partout. Les grandes villes, il y avait 300 000 personnes à Rome dans 8 marches différentes, 150 000 personnes à Milan. Aussi dans les petites villes, il y avait énormément de monde. C'était remarquable, c'est aussi la participation des jeunes lycéens aux manifestations. Même un des dirigeants syndicaux de la CGL, Landini, a dû dire, au fait, les jeunes sont, en fait, à la tête des initiatives ici aujourd'hui. C'est les lycéens, c'est-à-dire qui nous montrent la voie. Et donc, c'est assez extraordinaire, surtout parce que c'est un pays dont une bonne partie de la population, ou plutôt dans le reste du monde, pense que c'est un pays fasciste. C'est un pays, en effet, dirigé par Meloni, qui est une ex-fasciste. Elle était membre des jeunesses fascistes dans sa jeunesse. Il y a Salvini, qui est ministre de l'Intérieur, qui est un gars d'extrême droite aussi. Et avant la grève, tous les deux, la première ministre, Meloni et Salvini, ministre de l'Intérieur, avaient dit « Cette grève n'aura pas lieu. Je vais mettre tout en œuvre pour qu'elle n'ait pas lieu. » En disant qu'elle est illégale, je vais réquisitionner les grévistes et je vais m'assurer que la police empêche les blocages partout en Italie. Mais l'ONU a essayé de ridiculiser la grève en disant un week-end prolongé et la révolution, ça ne va pas bien ensemble. Elle dit, parce que la grève, c'est le vendredi. Donc elle dit, oui, les gens partent en week-end prolongé. En fait, les gens ne sont pas partis en week-end prolongé. Ils sont participés massivement aux manifestations. Et donc, malgré tout ça, la grève a eu lieu sans que personne ne puisse l'empêcher. Et ça, c'est assez extraordinaire.
Quoi, c'est la force du nombre qui a fait ça dégomme tout sur son passage, quoi. C'est la force du nombre.
Tout à fait. Je crois que c'est à Milan que la police essaie de bloquer la manifestation pour arriver dans des lieux stratégiques. Mais en fait, les manifestants sont passés à travers les cordons policiers. À Bologne aussi. La police a essayé de protéger ce qu'on appellerait ici à Brésil la petite ceinture, le ring, mais c'est un axe routier pour le transport industriel très important. Mais en fait, la police n'a pas pu protéger, la tangentiale, comme ils disent, et les manifestants l'ont occupé. Et donc, ça montre en fait, dans la pratique, pas dans des discours, pas dans des tracts, pas dans les livres, la force du nombre et la force des travailleurs alliés avec les jeunes. Je crois que ça c'est extrêmement important à souligner avec cette grève. Aussi, j'ai souligné tout à l'heure, c'est que, et ça fait penser à la fin des années 60. L'Italie a connu son mai 68, mais plus tard, et a duré plus longtemps. C'était au printemps 69. Et puis en 70, 71, 72, où aussi, au fait, ce sont les ouvriers à la base, dans les usines, qui ont poussé les dirigeants syndicaux à agir. Et c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui. Il y a des similitudes entre 69 en Italie et 2025. Et donc c'est important à souligner. Je crois aussi, si on va un peu plus loin, il y a eu une grève générale aussi, plutôt une journée d'action en France le 2 octobre contre le plan d'austérité du gouvernement Le Cornu qui vient de tomber.
Le 2 octobre, c'était pas le 10, hein?
Pardon?
C'était pas le 10. Non, excuse-moi, je me trompe, c'est le 10 septembre, là. Ouais, je confonds. On est au mois d'octobre, Graziella.
Le temps va très très vite. Le temps va très très vite, Graziella. Non, c'est le 2 octobre. Mais ce que mes amis me disent, c'est que c'était frappant. C'est le nombre de drapeaux palestiniens dans les manifestations ouvrières et des jeunes. C'est une identification, clairement, entre la question de l'oppression des Palestiniens, la double morale des gouvernements qui prétendent respecter le droit international mais ne font rien pour la faire respecter.
Ça s'écroule, ça se voit, quoi, maintenant.
Ça, c'est important. Et à nouveau, là, on voit le fait que les drapeaux palestiniens sont un vecteur, au fait, de toute une série de colères et de frustrations sociales et politiques. Et aussi, le 2 octobre, on a vu une grève générale des étudiants en Espagne, qui était massive aussi dans les centaines de villes. Des centaines de milliers de lycéens sont descendus dans la rue. Et en Belgique, on a eu aussi des manifestations un peu partout. Et un début, et je crois que ça vaut la peine de le souligner, de grève lycéenne. Dans deux écoles bruxelloises, jeudi et vendredi, des lycéens, c'est-à-dire des étudiants du secondaire, sont partis en grève. Donc des jeunes de 16-17 ans ont pris l'initiative de faire la même chose qu'en Italie ou en Espagne. Et donc c'est aussi un indicateur d'une nouvelle conscience politique. C'est une partie de la jeunesse, il ne faut pas l'exagérer. Mais peut-être que ça va se généraliser dans les prochaines semaines. Et les étudiants universitaires belges ont déjà annoncé une grève nationale le 23 octobre pour la Palestine. Tout ça pour dire que le monde est en ébullition. Il n'y a pas seulement la droite ou l'extrême droite, mais il y a de l'autre côté du spectre politique et du spectre social, il y a une agitation de plus en plus grande, il y a une politisation plus grande, il y a une radicalisation plus vers la gauche qui se manifeste. Et donc, cette partie-ci, la deuxième entretien, ben c'est un peu la continuité du premier entretien, mais avec des nouveaux exemples de l'actualité récente. Aussi, ce week-end, aux Pays-Bas, il y avait 250 000 manifestants pour la Palestine. Ils n'ont jamais vu ça aux Pays-Bas. Leur plus grande manifestation, c'était avant l'été, ils étaient 100 000 et ils étaient super contents. Mais là, ils sont 250 000. Donc, il y a vraiment il y a un soulèvement, en fait, d'une bonne partie de la population contre le génocide, contre l'impérialisme, contre la guerre, contre la double morale des dirigeants, dans lequel, au fait, converge aussi et sur lequel se greffe toute une série d'autres mécontentements contre la militarisation, contre l'austérité, etc.
Ça va ? Bon, un coup là, hein. Mais du coup, moi, j'avais envie de poser la question. Je sais que ça paraît toujours un peu naïf, hein, mais c'est parce que je ne suis pas bien au courant, etc. Mais donc, l'Italie est bloquée le vendredi 3 octobre, toute la journée.
Oui, exactement.
Il n'y a pas eu plus de jours, quoi.
Non.
Qu'un jour.
Qu'un jour, oui. Je crois que ça va avoir des effets sur le reste de l'année politique. On ne sait pas encore très bien ce qui va se passer.
Mais évidemment, on ne sait pas.
On ne sait pas.
Mais ça a été un jour, quoi.
C'est un jour.
Bloquer le pays un jour.
Un jour, oui. Naturellement, le slogan, je ne sais pas si tu as remarqué, qui vient de France, il vient du 10 septembre, lancé là pendant l'été, le bloquons tout, est devenu une consigne politique, syndicale, un slogan politique, repris en Italie. C'est bloquiamo tutti, ou tutto. Et aussi en Belgique, il y a des groupes qui disent, en fait, il faut bloquer tout contre le gouvernement de l'Arizona. C'est qu'on ne peut pas se contenter d'une manifestation, d'une journée de grève. Il faut tout bloquer. Et à ce moment-là...
Plusieurs jours, quoi.
Plusieurs jours.
Voilà, maintenant, ouais, c'est l'idée.
Tu as totalement raison. C'est là l'idée de grève générale reconductible. C'est que de jour en jour, on décide collectivement, démocratiquement, sans l'intervention des bureaucrates syndicaux, etc., de la suite des actions. Et je crois que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. L'Italie et la France montrent en effet que ce courant-là existe parmi une bonne partie des travailleurs et de la jeunesse. Il doit encore mieux s'organiser, certainement. Il doit mieux s'enraciner.
Voir aussi la stratégie, la tactique, qu'est-ce qu'on fait, parce qu'ils doivent bien savoir. C'est facile à deviner que si on bloque un jour, bon, c'est pas suffisant, quoi. Tu vois ce que je veux dire ?
Mais souvent, il faut passer par le premier jour.
Oui, le premier jour,
te convainc. Ah bah oui, c'est possible. Il est possible. Je ne suis pas seul. On n'est pas seul. On est des millions. C'est une énorme force. Mais comme tu dis, si on s'arrête là, ben c'est de l'énergie gaspillée. Ça se limite à ce moment-là.
On verra bien, mais dommage qu'on n'est pas en Italie pour aller demander aux gens, mais tiens, il y a une mobilisation énorme là, mais quoi, il suffit d'un jour.
Certains qui pensent à de nouvelles journées d'action, de nouvelles grèves, etc., mais là pour l'instant,
je n'ai
pas d'autres informations à te donner.
Mais toi, t'expliques ça comment ? Et évidemment, ce n'est que ton avis, mais je veux dire. C'est pas la vérité, c'est pas... Voilà, c'est une vision du monde que tu as, toi, qui peut être partagée, hein. Mais c'est quand même l'extrême droite qui est au pouvoir en Italie, quoi. C'est... hein. Et comment on explique ça ?
C'est intéressant parce que si on analyse bien les résultats électoraux en Italie, on s'est rendu compte qu'avec le grand taux d'abstention...
Oui, c'est ça, parce qu'on...
Un quart des électeurs qui ont voté pour la coalition de droite et d'extrême droite. Pourquoi ceux les autres n'ont pas été votés ? Parce qu'ils étaient déçus de la gauche. Et parce que tous les autres partis, contrairement au parti de Meloni, n'avaient jamais participé à un gouvernement auparavant. Donc les gens se sont abstenus ou ont voté pour Meloni parce qu'il semblait que c'était un parti du changement. Mais ne nous trompons pas, l'Italie n'a pas viré à droite il y a 2 ans les élections. C'est une illusion d'optique électorale et politique de penser ça.
Mais comme en France, parce qu'en France, j'ai plus suivi, c'est pareil. Hein, c'est l'abstention qui a gagné.
Et ce qui fait qu'en France, par exemple, Macron, ben oui, il a été élu, mais c'est un président extrêmement minoritaire. Et encore plus minoritaire. Et tous les gouvernements qu'il a essayé de mettre sur place depuis 2 ans... trébuchent l'un sur l'autre, tombent.
Mais il paraît qu'il devrait déjà plus être là, lui, normalement. Si on suivait la Constitution et toutes les règles qui vont avec, il devrait déjà plus être là, lui.
Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gouvernements qui sont arrivés de droite ou d'extrême droite, pour utiliser ce terme, de droite radicale ou populiste, qui sont arrivés au pouvoir, mais n'ont pas de véritable assise électorale massive. Sont minoritaires. Et survivent seulement grâce à la passivité, l'inertie temporaire d'une grande partie de la population, en particulier des travailleurs et des jeunes. Mais quand ces jeunes-là ou ces travailleurs commencent à bouger, ben on se rend compte quel est le véritable rapport de force dans la société. Je répète, vous dire, Salvini, ministre de l'Intérieur, a tout un appareil policier à sa disposition, tout un appareil législatif aussi à sa disposition pour... arrêter cette grève, il n'a pas réussi à le faire. En fait, donc, probablement, il n'a pas voulu le faire, parce qu'il se rendait compte que ça n'allait pas marcher. Et il y a des lois anti-grève qui n'ont pas été mises en œuvre vendredi passé, parce que...
Le monde est trop grand, quoi.
Exactement, la massivité de la réaction, la radicalité de la réaction était tellement forte. La détermination à dire, on s'en fout que ce soit légal ou illégal. Il y a quelque chose au-dessus de ça. De la légalité de ce gouvernement ou de cet appareil d'État, il y a la solidarité internationale. Et on voit très bien, quand les uns utilisent l'argument légal pour interdire une grève, ils n'utilisent pas le droit international pour intervenir contre Israël. Ça veut dire qu'ils massacrent les Palestiniens. Et ils se rendent compte, au fait, c'est quoi ces lois ? À quoi elles servent ? Elles n'ont plus d'autorité. Elles ne sont pas respectées par les gens. J'ai aucun respect, parce qu'on n'a aucune autorité morale pour prétendre que nos grèves sont illégales. D'ailleurs, c'est significatif, c'est que le syndicat de police affilié à la CGIL en Italie, le syndicat socialiste ou communiste, a aussi participé à la grève du 3 octobre. Elle a clairement dit « nous n'intervenons pas pour réprimer les travailleurs ». Dans ce contexte-là, Salvini et Meloni n'avait pas de possibilité au fait de réprimer. Naturellement, il va essayer de repartir à la charge. S'il n'y a pas de nouveaux grands mouvements, comme tu dis, de plusieurs jours de grève générale reconductible en Italie, eh bien oui, le mouvement risque de retomber mais en tout cas, ce que je veux souligner, au-delà des perspectives immédiates ou à moyen terme, c'est comment une situation peut radicalement changer et révéler, en fait, le véritable rapport de force dans la société. Probablement, si tu aurais demandé aux Italiens, il y a 2 semaines, vous allez partir en grève, là, avec 2 millions de personnes dans les rues d'Italie. Et j'ai dit, non, vous êtes fous, on ne va pas faire. Les Italiens ne sont pas comme ça, les Italiens sont passifs, les Italiens se laissent faire, les Italiens préfèrent manger leurs pâtes, leurs spaghettis, devant un match de foot, ils vont pas bouger, etc. Mais non, les Italiens probablement se surprennent eux-mêmes maintenant en Italie. Et c'est ça qu'il faut retenir, je crois, de la situation.
Oui, après, on verra la suite, on va voir la suite. Il ne faut pas lâcher, quoi. Mais par exemple... Ici, le 14 octobre, t'as un peu des nouvelles de ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se dérouler, parce qu'il y a une grève nationale, quoi.
Oui, officiellement, c'est même pas une grève nationale. Officiellement, c'est une journée d'action, une manifestation nationale. Mais déjà,
c'est pas une grève nationale.
Mais plusieurs secteurs ont déjà annoncé.
Tu sais que les avions bloquent.
Plusieurs secteurs ont déjà annoncé qu'ils seront à l'arrêt.
Pas les trains.
Pas les trains.
Parce que ça doit transporter les gens.
Mais ce que j'entends, ce qui remonte de la base ou les entreprises, c'est que la manifestation va s'accompagner dans beaucoup d'entreprises d'arrêt de travail, de grève effective. Réduisant probablement la production dans plein d'entreprises, fermant des magasins, fermant les aéroports. Ça, c'est extraordinaire que deux semaines avant la manifestation nationale, les directions des deux grands aéroports belges ont déjà annoncé que, en fait, aucun avion ne décollera ni pourra atterrir à Zaventem en Charleroi. Ça montre très bien la disposition à la participation et à la lutte.
Il y a une force là, moi, ce que je vois sans connaître, c'est qu'il y a une force là, en fait, mais que ça ne s'enclenche pas, quoi. J'ai l'impression que c'est à moitié... Tu vois ce que je veux dire?
La manif du 14 sera, je crois que elle sera immense. Elle sera même peut-être plus grande que la dernière, où il y a plus de 100 000 manifestants. Mais là, à nouveau, il faut se demander, est-ce que ça va faire avancer le Schmilblick? Est-ce que ça va faire... On va dire, fléchir le gouvernement. Ma réponse est non. Le gouvernement va rester de marbre face à ça. Il va peut-être concéder ceci ou cela, lâcher du lest par-ci par-là sur des questions secondaires. Mais fondamentalement, il va maintenir sa ligne austéritaire et militariste. Donc on est plusieurs, on est nombreux, en fait, à essayer d'expliquer que ce qu'il faut, c'est une grève générale reconductible. Ça veut dire une grève de plusieurs jours, interprofessionnelle, nationale, et qui soit imposée aux directions syndicales, mais gérée et dirigée démocratiquement par la base dans les assemblées générales, avec des délégués syndicaux, avec des syndicalistes, aucun problème, avec des sections syndicales, c'est super important, il y a pas mal qui sont de gauche, etc. Parce que ce qui nous pend au nez, ben c'est une austérité plus, c'est une militarisation plus, c'est une démolition sociale sous stéroïdes, clairement, ce qu'on nous annonce. Et encore, cette semaine-ci, le gouvernement doit chercher encore 10 milliards supplémentaires dans nos poches, en fait. Et donc, ce qu'on sait déjà sur l'austérité, le démantèlement social, la misère organisée des chômeurs et des malades de longue durée va s'amplifier dans les jours qui viennent. Donc, je crois que vraiment, le 14 va être massif. Mais si le 14 n'est pas suivi d'un plan de bataille qui contient l'idée d'une grève générale reconductible, cette énergie-là va être perdue, va être dissipée. Et je voudrais ajouter à cela que soit il faut aussi renverser le gouvernement. On ne peut pas attendre que le gouvernement change de position.
Mais comment on le renverse?
Renverser, ça passe par un...
Tu as connu ça, toi?
Oui.
Arrête.
Dans les années 70, fin des années 70, il y a eu les fameuses grèves de vendredi contre le gouvernement Tindemans, c'était un premier ministre CVP.
C'est quoi CVP?
CDH, le Parti catholique, qui était tout puissant à l'époque, qui a perdu beaucoup de plumes en plus de 40 ans. Mais les grèves de vendredi, les grèves tournantes dans plusieurs parties du pays pendant plusieurs semaines, a acculé le gouvernement, a provoqué une crise politique, provoquant en fait la chute de ce gouvernement, qui n'avait plus de majorité au Parlement et qui a donné sa démission. Et les derniers sondages en Belgique montrent que le gouvernement ou les partis qui composent le gouvernement Arizona n'a plus la majorité parmi la population.
Ouais, j'ai vu ça.
Et on se rend compte aussi qu'une bonne partie de la population, un peu bernée par les discours libéraux sur l'augmentation du pouvoir d'achat, c'était...
Avant les élections, ça.
Avant les élections, naturellement. Boucher du Hamer qui annonçait une augmentation de 500 euros par mois. Mais une bonne partie de la population, maintenant aussi, les sondages illustrent ça, elle se rend compte, au fait, son pouvoir d'achat ne va pas augmenter, et son pouvoir d'achat est en train de diminuer. Et ça va aller en s'accélérant. Ce que le gouvernement veut, c'est mettre plus de chômeurs sur le marché du travail, plus de malades sur le marché du travail, plus de personnes âgées sur le marché du travail pour augmenter la concurrence de tous contre tous, en espérant, à ce moment-là, faire une pression vers le bas sur les salaires et les conditions de travail. Et donc je crois que le 14, pour venir à le 14, ça doit être un nouveau tremplin. C'est une nouvelle occasion pour populariser cette idée-là d'une grève générale reconductible, pour le renversement du gouvernement. Moi, je crois qu'il faut un gouvernement des travailleurs. C'est un terme encore un peu général, c'est précis.
C'est pas que des travailleurs, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui se retrouvent sur le carreau aussi, non ?
Mais pour moi, ce sont des travailleurs. C'est-à-dire, tous ceux qui sont sur le carreau, travailleurs sans emploi.
Parce que ça divise aussi, je trouve. Hein. Je sais que... Ben, voilà. Il y a des gens au chômage qui travaillent des petits... Tu vois ce que je veux dire ? C'est quand on dit les travailleurs, on a l'impression...
Ils font partie de la classe travailleuse, tous ces gens-là. C'est tous ceux qui sont...
Les gens, quoi, en règle générale, non ?
Ce ne sont pas des capitalistes, en fait. Ceux qui ne sont pas des, on va dire, des exploiteurs. C'est ça, au fait. Et donc, le 14 sera une occasion de mettre en avant cette idée de « bloquons tout ». Comme en France, comme en Italie.
On aimerait bien que ça se passe, mais on verra bien. Parce que on ne sent pas encore... Enfin, ceci dit, il y a eu une manif aussi pour défendre la Palestine, là, où il y avait aussi du monde dans les rues, hein, il n'y a pas tellement longtemps.
Il y avait pas mal de monde dans les rues de Bruxelles. On s'est rassemblés devant le ministère des Affaires étrangères.
Ah ouais, après la flottille, ça. Ouais. Moi, je parlais avant encore.
Ah ouais. Oui, tout à fait. Oui, donc, on a eu 11 grandes manifestations nationales qui, chacune, était plus en plus grande. Et pour ceux ou celles qui étaient assez manifs, on s'est rendu compte que ce n'était pas seulement une manif habituelle. Il y avait une énorme... C'était un torrent, plus qu'une manifestation. C'était une rivière tumultueuse où on sentait l'électricité, on sentait la colère. On sentait aussi la joie d'être aussi nombreux, mais aussi une formidable inquiétude en disant, ben, en fait, même si on est 100 000, ce gouvernement ne nous écoutera pas.
Et du coup, on fait quoi ?
Il y a de plus en plus l'idée, c'est aussi le résultat de cette prise de conscience dans certains pays comme en Italie ou en Espagne, c'est qu'il ne suffit pas d'une révolte morale ou d'invoquer le droit international pour que nos gouvernements bougent sur Israël, pour qu'ils imposent un embargo militaire ou qu'ils sanctionnent économiquement, financièrement Israël. Non, ça ne viendra pas d'eux, ça viendra de l'action directe, de masse. Et c'est ce qu'on voit arriver. L'Italie, c'est ça, c'est une prise de conscience, c'est que ça ne viendra pas d'eux, ça va venir de nous. Et là, ils appliquent dans la pratique en Italie ou en Espagne, dans les ports surtout. Je ne sais pas si j'ai mentionné ça la dernière fois, il y a eu une conférence européenne des dockers, des travailleurs portuaires, en Italie, il y a une semaine et demie, où les dockers ont décidé, en effet, de bloquer tous les bateaux avec de l'armement ou du pétrole pour Israël. Et donc... C'est une prise de conscience, c'est que c'est pas le gouvernement qui va faire ça, c'est nous qui devons le faire. Comme disait quelqu'un, seul le peuple peut sauver le peuple. Et donc, on n'attend rien d'un gouvernement, on n'a plus rien à attendre d'un gouvernement, on va prendre l'initiative nous-mêmes.
Moi, je suis d'accord avec cette idée, hein, mais après, comment on s'organise ? C'est ça le truc, quoi.
Oui,
mais... Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont d'accord pour ce que tu dis, là. Après, comment ça s'organise, ça, tu vois ?
Mais là, les dockers l'organisent très concrètement, parce qu'ils se sont rassemblés, et donc...
Oui, mais après, tout rentre dans l'ordre, quoi.
Oui.
Ça stoppe un temps, ok, ça marche, on voit qu'on est capable, c'est nous qui avons la force, et puis quoi, tu vois, c'est une vraie question, hein, comment est-ce que ça s'organise, ça ?
Oui, parce que, y a surtout, après, veut dire, ce que ça montre, c'est que ceux qui vont véritablement fonctionner l'économie, c'est pas les cadres d'entreprise, c'est pas les directeurs, c'est pas les PDG ou les CEO, mais c'est les travailleurs. Et donc là, dans la pratique, les travailleurs montrent que c'est eux qui font fonctionner l'économie, c'est eux qui... Sans eux, rien ne bouge, en fait. Rien n'est transporté. Et donc c'est une idée puissante. Mais comme tu dis, qu'est-ce que tu fais avec cette prise de conscience ?
Non, mais surtout, comment ça s'organise ? Est-ce qu'il y a des... Parce qu'on parle des syndicats, il y a des chefs des syndicats, hein, les présidents, là. Est-ce qu'il y a une... Tu vois, une tactique, une stratégie, là, à se dire, allez, c'est maintenant qu'il faut y aller, c'est maintenant qu'il faut...
Ça dépend de l'autre. Et là, les réseaux sont en train de se former, dans plusieurs syndicats aussi, en Belgique aussi, des réseaux, à la base de militants combatifs, qui se défendent cette idée-là, de grève générale reconductible. Ils défendent l'idée d'utiliser le 14 comme un tremplin, pour un plan de bataille beaucoup plus déterminé jusqu'au renversement du gouvernement. En Italie, c'est grâce à ça aussi, grâce au réseau. À la base, ils disent dans les syndicats que la direction nationale était forcée, en fait, de passer à l'action.
Oui, d'accord. Mais essayons de nous comprendre, parce que, par exemple, je prends un exemple pour qu'on se comprenne. En France, bon, le Macron, là, ça fait plein d'années qu'il s'accroche au pouvoir. Les Gilets jaunes ont montré qu'ils étaient là. Bon, il est toujours là, le Macron. Enfin, il y a eu, tu vois, c'est pas cet été, c'est l'été d'avant, hein, où il y a eu dissolution, le gars, il fait n'importe quoi, il s'accroche. On sait que si, par exemple, ce gouvernement tombait, il y a une alternative. Alors, je dis pas qu'elle est, elle est sûrement mieux que Macron, tu vois, après, il y a plein de choses qui se discuteront, mais il y a une alternative en France. Il y a le Mélenchon, là, avec toute sa clique, la France insoumise, qui sont là à vraiment défendre un autre monde. Enfin, moi, j'ai déjà pris le temps d'écouter. Elle est là. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Ici, par exemple, OK, rêvons, hein, parce que pourquoi pas, allez, ça va jusqu'au bout, quoi. On bloque tout, on y va, mais qu'est-ce qu'on met à la place ici, par exemple, en Belgique, t'es au courant ?
Oui.
Comment on ferait ? Comment on ferait si on peut rêver ?
Là, c'est le... où le bas blesse, c'est que il y a pas d'alternative politique de masse.
Le PTB, peut-être ?
Le PTB...
Qui défend les travailleurs, parce que tu as...
Le PTB défend les travailleurs, clairement une force de gauche, qui se dit marxiste.
Qui parle quand même de rupture, quoi.
Tout à fait. Il est clair que le PTB a un rôle très important à jouer dans l'alternative. Mais il y a quelques faiblesses au PTB, c'est que... Je crois qu'il... Il fait un peu trop, en fait, le jeu parlementaire, et son centre de gravité d'activité politique se déplace vers l'électoral et le parlementaire.
Je te perds, là. Je comprends pas ce que tu veux dire.
Ils attachent moins d'importance qu'avant aux actions dans les entreprises, dans les quartiers.
Ça pourrait revenir. Je veux dire, imaginons que... Voilà, là, ça pète, ça déborde, clairement, j'invente, hein, allons plus loin que, voilà, la grève générale, prendre l'ampleur, ça bloque tout pendant, j'invente, 4 jours, ça y est, c'est vraiment, est-ce qu'il y a une alternative ?
Le PTP devrait être cette alternative. Est-ce qu'elle est disposée à l'être ? Il faudra les interviewer.
Oui, parce que j'imagine que la France insoumise, il y a plein de reproches aussi à faire, à dire, mais elle est là, elle est prête à prendre la place, quoi, parce que ils défendent quand même une autre vision du monde. Moi, le PTB, sûrement, il y a plein aussi de mais elle serait quand même là pour faire une vraie rupture, quoi. Après, il y a plein de choses qui se discuteront. Mais tu comprends ce que je veux dire ?
Oui, tout à fait, mais c'est ça qui veut dire.
Toi aussi, alors du coup, tu vois le PTB, t'as pas une autre idée de qu'est-ce qui pourrait...
Il n'y a aucun autre parti de gauche avec un appui massif, un enracinement, comme le PTB. Donc ça, le PTB a un rôle crucial à jouer dans cette alternative. Tout comme en France aussi, Mélenchon et France Insoumise ont un rôle crucial à jouer. J'espère que la France Insoumise, maintenant que la crise... la nouvelle chute du gouvernement...
Là, aujourd'hui, hein.
Reformé aujourd'hui, de Le Cornu, que Mélenchon et France Insoumise ne vont pas faire l'erreur de s'allier nouveau avec le PS et les Verts. Parce que ce sont des partis très discrédités.
Non, ça, clairement, ils disent que non. Hein.
Mais on verra, on verra, on verra.
Ils disent que, enfin, ils disent, enfin, moi je les ai suivis là, ils disent non, clairement, on veut pas s'associer, on veut une gauche de rupture, quoi.
Mais on verra, on verra, ben, on verra, on verra. Je l'espère et je le souhaite.
Parce que c'est ça qui se passe, si jamais, moi je pense pour ça, la révolution des œillets là, en Portugal, les gens, bon, c'est compliqué, hein, mais c'est toujours comme ça, c'est le chaos, les gens sont dans la rue et puis. Qui va prendre le pouvoir, là? Qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Bon, là, c'est de nouveau une révolution qui tombe par terre, parce que, voilà, c'est de nouveau le capitalisme qui reprend la main, quoi, tu vois? Mais c'était ça, de s'imaginer, tiens, qu'est-ce qui pourrait se passer de bien?
Si je prête bien, on veut dire que c'est une révolution, mais comme tu dis, ce n'est pas suffisamment d'avoir une révolution, une grève générale reconductible, ou un gouvernement qui soit renversé et qui tombe. Mais il faut une alternative politique révolutionnaire. Le PTB, en Belgique, est clairement au centre de ce potentiel d'alternative de gauche. Il faudra s'assurer qu'il ne soit pas tenté par. Un rafistolage du système.
Mais ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Après, évidemment...
C'est à nous d'agir, c'est à nous d'agir. C'est à nous d'agir et de mettre la pression sur le PTB à ce moment-là, clairement. Et la même chose en France. Même chose en France et la France insoumise. Parce que en face de nous, on a des adversaires qui sont très expérimentés, qui savent... manœuvrer, qui savent séduire, qui savent réprimer si nécessaire, manier la carotte et le bâton. Et donc, dans ce sens-là, je ne suis pas convaincu que le PTB soit suffisamment armé pour être à la hauteur d'une alternative politique au moment d'un renversement d'un gouvernement en Belgique suite à une grève reconductible. Mais... il sera certainement au centre de ce processus politique, ça ne fait aucun doute. Voilà. Mais ce sera l'occasion aussi de faire émerger d'autres forces à gauche du PTB qui soutiendraient en fait, le PTB dans tout ce qu'il fait de gauche, de rupture, mais pour éviter qu'il succombe aux pressions. Dire du capitalisme, et que le capitalisme ne leur reprenne pas les billes. Mais ça, c'est l'avenir le dira. L'avenir le dira.
On annonce aussi, là, on est à, dans 3 minutes, 40 minutes. Ça va vite. Hein. Et j'avais aussi envie d'aborder cette idée que, comme il y a des soulèvements un peu partout, quand je dis un peu partout, à quelques endroits du monde, on va dire, qui sont quand même costauds, surtout aussi l'Europe, hein, parce que nous, on joue dans l'Europe, quoi. J'ai entendu dire que ce serait le bon moment pour l'élite des droites extrêmes là, de lancer une petite guerre, quoi, pour bien de nouveau tout mettre par terre. Une guerre avec la Russie ou...
Oui, il est clair que... On essaye de nous faire peur depuis plusieurs mois, et en particulier les dernières semaines, avec l'histoire des drones qui circuleraient au-dessous des bases militaires au Danemark, en Allemagne, en Belgique, qui seraient des drones russes. Et donc l'OTAN, cette alliance militaire agressive dont fait partie la Belgique, se prépare en fait à un conflit avec la Russie. Et...
Oui, mais quand tu dis on nous fait peur, oui, sûrement on nous fait peur, on ne nous raconte pas ce qui se passe exactement, ça c'est sûr, mais ce serait ce serait le bon moment pour de nouveau semer le chaos, quoi. Parce qu'une fois que les peuples sont éveillés, comprennent en fait que l'élite là-haut, elle fait n'importe quoi, elle raconte n'importe quoi, genre, tu vois, du coup, les gens deviennent de plus en plus radicales et c'est le bon moment pour relancer une petite guerre, quoi.
Oui, c'est possible. Mais ce ne sera pas évident de lancer une guerre, mais en tout cas, une série de conflits militaires.
Pourquoi tu dis que ce ne serait pas évident de lancer ?
Une guerre complète, ou comme une troisième guerre mondiale, je ne vois pas ça tout de suite à l'ordre du jour. Mais certainement, ce que toutes les classes dirigeantes en Europe alimentent, c'est en effet, c'est un esprit belliciste dans la société. Il faut se préparer à une guerre avec la Russie. Et si la Russie ne le veut pas, ben non, on provoquera bien les incidents suffisants pour,
y arriver, quoi.
Pour y arriver. Et surtout détourner l'attention de la population. Et de militariser les esprits. D'embrigader la jeunesse.
On est occupé à le faire.
Totalement, on est totalement là-dedans. De là, l'extrême importance aussi d'ajouter à nos luttes sociales, aussi bien environnementales ou de solidarité internationale avec la Palestine ou contre l'austérité, un aspect antimilitariste et anti-guerre. Je crois qu'il faut faire télescoper, tous ces aspects des menaces qu'on fait. Enfin, on ne peut pas séparer, ces luttes-là.
Parce que souviens-toi, moi je ne connais pas super bien, mais c'était la première, non, la deuxième guerre mondiale, la gauche, les communistes s'étaient dit non, nous on est internationalistes, on se fait pas la guerre, et puis pour finir, ils y vont quand même. Hein. C'était la première.
En 1914, les partis socialistes à l'époque avaient tous juré de ne pas participer aux guerres, d'empêcher les guerres. Mais en fin de compte, quand la guerre éclate, dans la plupart des pays européens, les partis socialistes...
C'est là qu'on bute Jaurès, ou rien à voir.
Jaurès était tué avant que la guerre n'éclate. Et c'est certainement... un élément important dans l'offensive de la droite contre ceux qui étaient opposés aux guerres, c'est quand même de liquider une des voies puissantes contre la guerre et contre le militarisme et pour la paix entre les peuples.
Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Parce que quoi, il suffit qu'on tue une personne qui est vraiment influente et on va quand même faire la guerre?
Parce que ce qui était déjà à l'œuvre de façon souterraine, c'était l'intégration des dirigeants socialistes dans le système capitaliste. Et l'intégration, c'est bien dans l'appareil d'État, mais l'intégration de leur tête. Et ils acceptaient, malgré toutes les résolutions et les serments qu'ils faisaient, ils acceptaient au fait qu'ils devaient défendre leur pays, leur classe capitaliste contre les autres classes capitalistes. Et on jetait en effet les ouvriers du monde entier dans des guerres extrêmement meurtrières. Mais quelques années plus tard, la révolution en Allemagne et la révolution russe vont mettre fin, à ces guerres. Et donc, c'est intéressant, parce que ça montre que la droite a besoin, ou les capitalistes, ou les bellicistes et les militaristes ont besoin du soutien de la gauche pour faire des guerres. La gauche institutionnelle, on en a déjà parlé. Mais que c'est au sein de la gauche même, la gauche non institutionnelle, la plus révolutionnaire, qu'on trouvera les énergies, les forces pour mettre fin aux guerres. Voilà. Et donc, moi, ce que je mets en avant, c'est un slogan aussi, mais ça résume un programme, c'est dire on est pour la paix entre les peuples, mais on est pour la guerre contre les milliardaires. Il y a un slogan qui existait aussi avant, c'est « guerre à la guerre ». Et donc, oui, pour éviter, en effet, que toutes ces colères sociales qui existent soient détournées vers une guerre dans laquelle les gens seront happés comme dans un tourbillon et dirigeraient leur colère contre les Russes, contre un autre peuple, etc. Ben il faut intégrer cet élément antimilitariste et anti-guerre à nos luttes d'aujourd'hui. On ne peut pas les séparer. Parce qu'en effet, dans l'arsenal dont dispose la droite ou l'extrême droite, il y a en effet cet élément de ben on va provoquer une guerre. Voilà. Non, je suis d'accord avec toi.
Oui, comme ça, tout est de nouveau par terre.
Ça va être difficile. Ça ne peut pas être si simple que ça pour
eux. Ah bon?
Non, parce que je crois qu'il y a quand même une conscience anti-guerre importante parmi la population. On le voit en Italie, on le voit en France, on le voit en Espagne.
On ne le voit pas en Israël.
Non, c'est autre chose. Non, en Europe. En Europe. Ouais. Voilà.
OK. On en est à 45 minutes. Les mots, qu'est-ce que tu as envie de dire sur ces deux émissions-là? Qu'est-ce que...
Bah, t'as envie... J'aime bien le concept.
Tu dis
J'aime bien le concept d'une d'entrevue, à bâton rompu, au fait, sans montage, et une possibilité d'aller en profondeur. C'est rare, je crois, dans le monde radiophonique belge, où, voilà, où, on, où les journalistes s'attachent à trouver la phrase catchy, la phrase mais ne vont pas en profondeur, font dans le superficiel. Donc, moi, j'aime bien ce genre d'exercice. Et je crois, oui, que... Mais j'espère aussi que ces deux entrevues peuvent susciter un débat avec les auditeurs, et qu'on pourrait se retrouver à un autre moment avec des auditeurs, ou avec toi, ou à une autre émission pour faire... un peu faire le bilan de la situation politique et de nos luttes. Donc c'est... Oh, je trouve ça passionnant. Voilà.
Bon, ben merci Eric. Hein. Merci à toi. On verra la suite de tout ça. Hein. Oui. Qui vivra verra, on dit. Hein. Oui, exactement.